Envie de parier sur le sport? Avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleurs codes du marché.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Do you want to be a fighter?
RMC.
There's only one Tyson Fury.
Fighters Club.
I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody.
Thomas Desson.
I am the greatest.
Dans le ring ou dans la cage, le RMC Fighter Club, c'est un combat pour le titre chaque semaine. 5 rounds de 5 minutes ou une victoire avant la limite si votre adversaire est à court d'arguments. Avec vous, période faste en boxe, semaine après semaine, des combats d'anthologie. Alexandre Herbinet nous propose de hiérarchiser les lourds actuels. Bonsoir Herbie.
Salut tout le monde.
Jonathan McCarty prépare ses bagages pour le Sénégal. L'Afrique francophone s'apprête à vivre son premier événement international à Dakar. Bonsoir John.
Salut les gars.
Brahim Asloum, lui, vit dans le moment présent, impatient d'échanger avec un autre organisateur de soirée fight. Bonsoir Brahim.
Salut Thomas, salut tout le monde.
Cet homme-là, c'est Fernand Lopez, le manager général de la MMA Factory, qui vient nous rencarder sur cette nouvelle organisation, dont il est le directeur sportif, le co-organisateur, Ares Fighting Championship. Bonsoir Fernand.
Bonsoir à tous.
Le sommaire, vous l'avez compris, Deontay Wilder, Luis Ortiz au programme du week-end du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, et le nouveau venu dans le monde du MMA, l'Ares Fighting Championship.
It's time!
Premier événement, mi-décembre, le 14-12 à Dakar au Sénégal. Sofiane Boukichou, Roy Grogg, on y revient dans un instant, c'est un lutteur sénégalais. Fernand, quelle est l'ambition? Est-ce que c'est de devenir un UFC francophone?
Non, simplement de devenir, d'être ce qu'on est, la plus large, la plus grande organisation afro-européenne, apporter le maximum de qualité sur un événement de MMA aux 1,3 milliard d'Africains et apporter de la qualité pour les 60 millions de Français ou 70 maintenant.
Tu le dis avec aplomb, être ce que l'on est, déjà la première grosse organisation. Tu sens déjà que les choses vont grandir de cette façon?
Absolument. Je pense que ça va être difficile de lutter contre. Les ambitions sont... J'ai la chance de travailler avec des personnes qui sont conscientes de ce que c'est qu'un événement, de savoir les risques que ça encourt, de savoir qu'on va perdre beaucoup d'argent au début, de savoir que c'est une affaire de consistance et de durée dans le temps. On a pris toutes les informations dessus, on sait vers où on va et on a l'impression de rester là pour longtemps.
Premier événement, donc Fernand, c'est le 14 décembre à Dakar. Il me semble que cet événement va être notamment en stream sur le UFC Fight Pass. Est-ce que tu peux nous dire déjà s'il y a des liens directs entre l'UFC et Ares, si vous avez déjà monté des partenariats, s'il y aura des échanges avec des fighters qui auraient brillé chez Ares, qui iraient à l'UFC? Comment ça va se passer?
Complètement. Vous êtes franco aujourd'hui, hein, vous ne tenez pas autour de moi. Ça va franco. Oui, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des call avec l'UFC, de la vraie entente dessus, tant sur la partie technique pour que tout se passe en symbiose, mais surtout sur la partie de collaboration, qu'on puisse avoir une collaboration où tous les acteurs, tous les athlètes signés à Ares ont ce qu'on appelle...
La passerelle comme à Cage Warrior.
Voilà, on tout de suite...
T'es une star academy de l'UFC?
Je ne sais pas si c'est une Star Academy. Je pense juste qu'on va faire une très bonne collaboration avec l'UFC, avec la team de matchmaking de l'UFC, qui sait qu'elle peut piocher chez Ares sur des très bons talents. Si vous regardez la carte n'est faite essentiellement que de jeunes talents, des personnes qui ont des prospects mondiaux.
Il y a mieux que ça, Fernand. J'entendais Israël Adesanya en parler. Donc maintenant, il y a deux champions de l'UFC qui sont africains, Kamaru Usman et Israël Adesanya. Et c'est vrai que le continent africain, quand on regarde la capacité athlétique des gens qui peuvent ce continent-là, d'avoir une organisation, d'organiser un event pour développer le MMA sur le continent, ça peut être une mine d'or pour l'UFC. Est-ce que toi, tu as dans ta stratégie de vouloir un petit peu débaucher des jeunes pépites africaines pour les faire progresser, les faire combattre Ares et après envisager une autre carrière?
C'est ça. Dans l'histoire de l'UFC Fight Pass, il n'y a jamais eu une organisation qui ait eu accès à la plateforme sans des pilotes, au moins une saison.
Oui.
Pour la première fois, l'UFC a décidé de nous laisser passer tout de suite sur la plateforme avec un beau contrat parce qu'ils savent qu'on va ouvrir le marché, qu'on va éduquer le public africain qui est très consommateur sur ce qui est du pay-per-view et surtout qu'on a un potentiel champion, Francis Ngannou, qui arrive, deux champions déjà établis avec un continent où il y a une ADN incroyable.
Brahim, Aslam Event n'y allait pas avec une telle assurance au départ. Est-ce qu'il est sûr de sa force à ce point? J'y vais, puisqu'on est dans le franc-parler. Non, mais... c'est de l'intox, Fernand Lopez, là?
Non, c'est pas de l'intox. Je pense qu'il y a, une envie, il y a eu deux travail faits en amont, et ça s'entend et ça se voit. La passerelle, elle est indispensable avec l'UFC, c'est ce qui va leur donner la crédibilité et surtout un continent qui est l'Afrique, qui a un vivier de combattants qui est hors normes. Nous, la boxe, on a pêché là-dessus. On aurait dû aller conquérir ce terrain et proposer à ces athlètes de devenir des champions du monde de boxe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On l'a fait par moments, mais occasionnellement. On n'a pas été suffisamment forts et unis pour pouvoir apporter ça.
Francis, quand il arrive chez Fernand, il veut faire de la boxe au départ.
Francis Ngannou.
Et c'est là où je félicite Fernand de cette initiative. Déjà, elle est intelligente. Elle permet à ces jeunes... qui sont malheureusement dans en difficulté de s'épanouir, de grandir et pourquoi pas de vivre de leur passion, de remettre l'Afrique au cœur du système. Moi, voilà, mon respect, félicitations et j'encouragerai avec grand plaisir
quelque chose que je trouve très intelligent, Fernand, c'est d'avoir pris ce lutteur sénégalais. Parce que c'est quand même un sport qui peut être très bien servir en MMA, quoi.
Moi, c'était mon coup de gueule. Si. Excuse-moi, c'était mon coup de gueule. Toi, tu dis c'est bien. Moi, je dis, mais alors attends, parce que tu l'as vu ou pas ? C'est un bonhomme Michelin, il est énorme, il est magnifique, etc. Mais j'ai l'impression qu'on revient aux premiers UFC. Tu me mets un Sofiane Boukichou face à un lutteur sénégalais. Je suis en 1993, tu vois ce que je veux dire?
Quand Kron Gracie signe à l'UFC, par exemple?
Mais justement, j'ai l'impression que c'est un retour en arrière de 25 ans.
C'est des spécialistes, des ultra spécialistes aussi.
Les lutteurs sénégalais, c'est des forces de la nature.
Oui, d'accord, mais là, j'ai pas un artiste en MMA.
Devant ça, hein.
J'ai pas un artiste en MMA, j'ai Roy Grogg.
Alors, dans un premier temps, je vais revenir déjà sur les gentils mots de M. Brahim.
Ils sont sincères.
Il faut que je dise merci à ça parce que je connais la valeur du monsieur et la lecture de jeu qu'il a sur le sports business et ça me fait vraiment plaisir qu'il pense qu'on a regardé à côté et qu'on sait ce qu'on fait. Regret.
Le lutteur sénégalais, Oumar Kané.
Moi, je crois beaucoup à la possibilité de court-circuiter la hiérarchie de l'évolution si on a de la qualité. Je vous rappelle que Cyril Gane a été champion d'une organisation majeure dans le monde, le TKO, ayant zéro combat. Je l'ai ramené, j'ai présenté, j'ai dit ce jeune, il vient du Muay Thai, mais je pense qu'aujourd'hui, il peut battre un champion de MMA. On n'a pas cru, mais au final, il a battu. Ok, le cas de Francis, c'était pareil. Avec trois combats, j'ai proposé Francis à l'UFC. On m'a dit, mais tu sais les règles, tu tombes sur la tête, c'est impossible. Et puis au final, ça s'est passé. Je pense que Regret a du retard. Mais cependant, c'est un dieu en ce qui concerne la lutte. La lutte est une grosse composante du MMA.
La plus importante, Fernand.
Il n'a jamais perdu. C'est exactement ça la plus importante. Il n'a jamais perdu un seul combat en lutte, ce mec-là. Il y a eu deux no contest, mais jamais perdu.
Je comprends l'opération séduction. Dakar, un lutteur sénégalais et qui a affronté Tyson, que je parle de Tyson, les grands lutteurs sénégalais, il y a Bombardier, etc. C'est un monument là-bas. Je comprends ça, l'opération séduction. Mais toi qui as fait des hybrides, toi qui as fait des artistes en MMA, c'est-à-dire plus un spécialiste du pied-point, plus un spécialiste de lutte, c'est ça la MMA Factory. Là, on repart de zéro avec celui-là.
On part de zéro, mais ce matin, il y a un devoir RSE pour Arès. Le but aussi, c'est d'éduquer le peuple sénégalais, de l'amener à croire au MMA. Et quoi de plus que de prendre une icône? Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûr qu'il dure dans le temps. Sur la carte, il y a des jeunes comme Moussa Togola, par exemple, qui, lui, va durer dans le temps. C'est un futur Francis. Il a zéro combat en MMA, mais il a la qualité esthétique qui lui permet de boxer longtemps et de bien boxer. Le regret, c'est le messager. C'est quelqu'un qui va apporter quelque chose de lourd. C'est quelqu'un qui amène 12 000 personnes dans un stade à lui tout seul. Donc voilà, il y a la réalité du terrain.
Ça aurait été même une faute de ne pas l'avoir mis à la carte.
Si on connaît un peu la lutte sénégalaise, il y a quelques champions dans l'histoire qui auraient mis quelques fessées à quelques mecs.
Et puis il y a des mecs comme Georges Saint-Pierre, Velasquez, ils se sont entraînés en lutte sénégalaise.
Là, ils vont ouvrir la porte à tous les lutteurs sénégalais, à tous les boxeurs sénégalais. Là, il va y avoir une vraie envie.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que la dimension à laquelle l'événement Arès va nous marquer n'est pas la dimension que ça va toucher ces personnes qui auront une ampoule qui s'allume dans la tête en disant « Ok, j'ai un métier, j'ai un ascenseur social, j'y fonce, j'y suis, je veux faire comme recueil. »
Une petite question aussi pour toi, Fernand. J'ai lu dans ton interview quand tu parlais d'Arès à MMA Junkie que tu disais « C'est le projet d'une vie ». Est-ce que pour toi, c'est plus important ce développement-là d'une organisation en Afrique, en Europe, avec la légalisation qui arrive en France, presque que d'entraîner tes lutteurs ? C'est le plus important pour toi, ça ? C'est le projet le plus important de ta vie ?
Ça va être difficile. Je pense que je suis très attaché à l'entraînement, à la performance sportive. J'y suis vraiment attaché. D'une manière ou d'une autre, je fais de... Voilà. Mais ce projet, il est important. En tout cas, sur la temporalité de ma vie, là, il y est. On y est. Ça, c'est le moment où j'ai besoin de ce projet, où j'y crois à mort, où c'est le projet de ma vie parce que l'OMM arrive en France, parce que j'ai cette passerelle-là, parce que le Sénégal devient quelque chose d'important, parce que l'UFC, qui est l'organisation majeure en Afrique, me pousse à y aller. L'UFC me pousse en disant « on a besoin de toi, on a besoin que tu testes le marché, on a besoin que tu ouvres les choses et on a besoin d'y aller ». Donc voilà.
Fernand, c'est ce que je pense d'Arès, et c'est pour ça que tu peux en être fier, ça va être l'histoire. Alors là, tu es dans les balbutiements de cette organisation. Mais tu verras que ça sera l'histoire. Là, ce que tu es en train de faire, c'est hors norme. Moi, je te donne tout mon respect parce que, certes, et je le confirme, tu es un entraîneur très intelligent, tu as une vraie philosophie. Je kiffe t'entendre parler de sport de combat. Mais là, en plus, tu apportes une autre dimension. Là, tu es co-organisateur d'un événement qui va rentrer dans l'histoire. C'est fort ce que tu apportes au continent africain. Le monde entier l'a délaissé. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est des anciens combattants, des gens qui aiment le sport, qui vont faire le travail nécessaire pour pouvoir relancer tout ça là-bas. Moi, ça aurait été mon rêve de pouvoir contribuer à lancer la boxe en Afrique. Alors, c'est là où j'ai encore plus de respect. C'est parce que, mine de rien, ça m'a trotté depuis des années, moi. Mais c'est compliqué à mettre en place.
C'est ça.
Le Far West.
Tout à l'heure, pour aller dans ces propos-là, on parlait à Sofiane Boukichou, qui, comme toi, est d'origine... Il y a le Maghreb, lui, il est d'origine marocaine. Sofiane Boukichou, il dit, j'ai envie de redonner. Il y avait des étoiles dans les yeux, donc il est conscient, il a envie de redonner.
Mais il y a surtout, là où c'est le moment est juste, c'est que pour mon occupation professionnelle, je suis amené à souvent aller en Afrique. C'est un continent qui est en plein développement, en pleine expansion. C'est un marché avec des millions de consommateurs. Alors, il y a beaucoup d'entreprises chinoises, je suis un petit aparté, mais il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui s'installent, qui commencent à développer des centres commerciaux, changer les aéroports, les infrastructures. Mais là, de lancer cette organisation-là maintenant, tout de suite, là, en 2019, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or, pas juste sur le plan sportif, mais aussi sur le plan commercial, si les choses sont bien faites. Et je pense que tu en as conscience.
Sur le plan humain,
comment on parlait
de ça ? Qu'est-ce que ça apporte ?
C'est ça.
Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, sincèrement, je dis ça, j'ai des frissons. Mais ce n'est pas le bonheur. C'est des mômes qui crèvent la dalle.
C'est exactement ça.
Personne ne leur donne l'heure. Ils traversent la Manche, ils traversent les mers pour essayer d'avoir un semblant de vie, d'être un petit peu heureux.
Ce sera
au musée la possibilité de s'épanouir.
Musée des civilisations noires, c'est quelque chose aussi, ça.
C'est
musée des civilisations noires.
Un très grand symbole. Mais encore une fois de plus, la gratitude... Je rejoins vraiment Brahim dans ce qu'il dit, la gratitude que ça apporte. Je vous dis, j'ai signé 28 mecs sur la Arès 1. Sur Arès 2, j'ai déjà signé une dizaine de personnes. Sur Arès 1, sur les 26 mecs que j'ai signés, j'ai eu les larmes aux yeux d'annoncer la signature à deux athlètes africains. Un jeune qui s'appelle Baba Najombe du Togo, qui m'a écrit sur les réseaux sociaux, en disant, je pense que je peux faire partie de cette organisation. Je pense que, je ne sais pas si vous me connaissez, mais je pense, et je suis allé me renseigner. C'était déjà un ambassadeur.
Et derrière, tu as vu des vidéos ? Comment t'as accepté ?
J'ai analysé des vidéos, j'ai vu ce qu'il devait faire. Et je vous promets, les remerciements de ce jeune, ça vous tire les larmes des yeux. Ouais. C'est incroyable ce que c'est que de donner espoir. C'est quelque chose, c'est une gratitude incroyable. J'ai formé sur la France des milliers de coachs parce que j'ai été formateur sur la fédération de lutte, la fédération de sport de contact. Et je m'en voulais toujours de n'avoir pas eu l'occasion de remettre quelque chose à ma terre natale, à l'Afrique. Et là, j'ai eu le vecteur qui me permet sincèrement d'aider concrètement sur le terrain.
Brahim a raison, ça donne des frissons quand on entend ces discours-là. Petite dernière question que je pense essentielle aussi Fernand. J'ai lu qu'il y aurait un petit événement qui se préparait en France le 21 mars pour Arès. Est-ce que tu confirmes?
Bah, Arès 2, c'est ça Arès 2?
C'est ça, Arès
2. Ah bah voilà, bien vu. Est-ce que, attention, il y a l'UFC à Londres ce soir-là, alors, ça vient de tomber aussi.
Moi, ce que j'ai lu, on parlait d'une salle de 5000 places. Est-ce que tu l'as déjà? Est-ce que tu sais déjà où tu vas l'organiser? Et en face, en effet, ils viennent d'annoncer l'UFC Londres. Est-ce que ça t'embête qu'il y ait l'UFC Londres en face?
Ça ne m'embête pas parce qu'on discute avec l'UFC et on fait du classement. Si vous ne saviez pas, sur l'UFC, sur la diffusion du live de la main card de Arès 1, on est juste en préliminaire de l'UFC 245.
C'est parfait.
On passe l'antenne tout de suite à l'UFC de Vegas. Dès qu'on termine, il y a l'UFC qui commence dans la foulée. Et donc, on fait le même truc sur Paris. Je préfère être prudent dessus, ne pas vous annoncer la salle, ne pas vous donner l'adresse, parce qu'on va sortir. Il y a un communiqué de presse qui va partir bientôt quand on aura finalisé tout avec les collègues de l'UFC Fight Pass, parce qu'il va falloir décaler légèrement.
Ça veut dire qu'il faudra sans doute combattre dans l'après-midi. Tu viens de le dire, tu as parlé des Africains. Ousmane Colby Covington, ce sera l'UFC 245, et ça va sans doute fort dicter le calendrier 2020. John, tu veux dire un mot là-dessus parce qu'on veut parler boxe aussi.
Ouais, non, juste cette carte, pour moi, alors c'est pas le combat dont vous voulez parler, mais si Max Holloway bat Volkanovski, c'est définitivement le plus grand poids plume de l'histoire du MMA.
C'est définitivement le plus grand consultant. Tu lui poses une question sur Ousmane Covington et il te parle de Blaise McPass maintenant.
Parce que la vraie star de la carte, c'est Max Holloway.
Il est fabuleux.
La vraie star de la carte, c'est Holloway.
Il s'est dit, c'est l'occasion où jamais le placer.
Oui.
Wilder, Ortiz, on va parler du Bronze Bomber, Deontay Wilder, évidemment. Moi, Herbie, j'ai juste un petit peu, je me dis, attends, mais le King Kong cubain gaucher en face, qui a 40 ans, c'est pas un peu George Foreman? Faut quand même faire attention à cette revanche.
Alors, il a 40 ans, mais c'est pas n'importe qui, Luis Ortiz, c'est un des meilleurs boxeurs de la catégorie, techniquement, dans ce qu'il peut apporter, même dans son punch. C'est un boxeur, de toute façon, c'est simple, tout le monde l'évite. À part Wilder, ces dernières années, tout le monde l'a évité plus ou moins. Ouais. Parce qu'ils savent très bien que face à Ortiz, comme Wilder du premier combat où il a été très mis en grande difficulté, ils savent très bien que c'est chaud face aux Cubains.
10e défense déjà, cette statistique le place parmi les plus grands, Deontay Wilder.
Eh ben c'est ça, puisque je voulais moi lancer le débat autour de Deontay, sur Deontay Wilder surcoté ou sous-côté, parce qu'on entend les deux sons de cloche, en fait. Déjà, sur le côté sous-côté, il faut se rendre compte, c'est la 10e défense du titre WBC qu'il va faire aujourd'hui. Enfin, samedi soir. S'il la gagne, il égale le 2e règne de Mohamed Ali. Il n'y a plus seulement que Larry Holmes qui est devant lui en termes de nombre de défenses de la ceinture WBC, qui est la ceinture mythique de la boxe, Brahim me confirmera. Il a 95% de KO sur 42 combats. C'est le plus grand pourcentage de KO de l'histoire des lourds, à plus de 40 combats, devant Marciano, devant Vitaly Klitschko, devant George Foreman. C'est un, au niveau palmarès et chiffres, c'est juste phénoménal. Par contre, personne ne le mettra jamais en ce moment dans sa liste des 10 meilleurs.
Parce qu'il a une technique défaillante et parce que, au contraire de Samir Hamoudi qui adore ça, il est très strict et il fait de l'anti-promo et non de la promo positive.
Alors, on devrait pas faire notre top 3 chacun, là, notre top 5 des lourds.
Tu sais ce qu'on va faire après? On va prendre le bon, la brute et le truand. Ouais. C'est-à-dire, le bon, vous l'avez, hein. Après Joshua, la brute, Wilder,
Ruiz, hein, dans ton équation,
et le truand, je mets Fury.
Et Mont Ruiz.
Bah alors vas-y.
Invité surprise.
Pour moi, le meilleur, il n'y a pas de discussion, c'est Tyson Fury. C'est le meilleur boxeur.
Pourquoi?
Parce que c'est le meilleur boxeur.
Techniquement,
c'est le meilleur boxeur. On dirait un poids léger qui combat en lourd dans ses déplacements. C'est quand même extraordinaire. Deuxièmement, je mettrais Wilder parce que même si sa technique est défaillante, s'il te connecte une fois, bah, c'est terminé. Il a besoin d'un coup pour éteindre les lumières de tout le monde. Et en trois, et loin devant la quatrième place, je mettrais Andy Ruiz, que j'ai toujours trouvé très bon. C'est pas parce qu'il a battu Joshua une fois. Je pense déjà qu'il aurait dû être champion du monde si c'était pas fait voler.
Tu sais que là, il s'entraîne que dalle hein, pour ce combat du 7 décembre. Il prend sa bourse, mais...
On va voir. Déjà, je pense qu'il aurait dû être champion du monde contre Parker en Nouvelle-Zélande. Les juges l'ont volé parce que voilà, Parker jouait à domicile.
Wilder en quatrième position. Brian, qu'est-ce que t'en fais de ce top 3-4?
Bon, c'est compliqué de les situer parce qu'on a affaire à une belle génération de poids lourds. Donc, on parle de quatre boxeurs qui ont des qualités pas totalement différentes.
Attends, parce qu'il adore ça, les pavés dans la mare et les digressions. Tu mets Ruiz dans le top 4, tu le mets dans les quatre mousquetaires?
Vous savez, celui que je mets en première position, ça sera Anthony Joshua. C'est le boxeur le plus complet. On peut monter, descendre. Il y a eu un accident.
Merci. Moi, je dis
il y a eu un accident.
Et les promoteurs,
Ruiz.
Ça suffit d'être toujours d'accord, tous les deux là.
Non, mais si on regarde intrinsèquement l'athlète en lui-même, sa manière de boxer, ses qualités, celui qui est le plus complet, ça reste.
C'est le plus propre.
Joshua. C'est le plus propre. Complet. C'est même pas une question de propre. Sincèrement, c'est le plus complet. Celui qui arrive en deuxième position, avec sa science, parce qu'il a une science, c'est Tyson Fury. Wilder, là où il n'est pas, pas classable réellement, c'est qu'il a un punch. C'est hors norme. Il t'éteint la lumière, c'est aussi difficile. Bien Joshua, aussi bien Fury et aussi bien Ortiz. Il est capable de tout. C'est sans doute le boxeur qu'il ne faut absolument pas prendre.
On veut entendre son top 3, Fernand, mais j'ai besoin de comprendre un truc. Joshua, formation olympique, je l'ai. Bronze Bomber, s'il s'appelle Bronze Bomber, c'est bien qu'il a pris une médaille de
c'est
bronze
ça,
aux Jeux
exactement.
Olympiques. Donc théoriquement,
au bout de 2 ans de boxe,
scolairement.
3 ans de boxe.
Ah, donc c'est ça, il a pas quand même les mêmes années de boxe.
Tu vois que Wilder, il a un bagage inférieur aux autres. Et on parle des 4 boxeurs concernés. Joshua, Wilder, Ruiz et Fury. Celui qui est le moins technique, c'est quand même Wilder. Et on l'a vu devant le combat, devant aussi bien devant Ortiz que devant Fury. Moi, à ce moment-là, je suis fan de Wilder. Mais à ce moment-là, j'ai vu toutes les lacunes de ce boxeur. C'est même incroyable.
Un peu ridicule
c'est comment t'arrives à arriver à ce niveau
et
faire une carrière,
de
faire une carrière comme il l'a fait avec autant de lacunes techniques.
La
on parle de boxe pro.
C'est la
une
puissance.
C'est vrai que sa puissance, c'est pour
sa
ça qu'on
c'est
peut le classer
coup, hein.
Un peu différent des autres boxeurs.
Écoutons.
Un Mike Tyson quand il frappait, il t'arrachait la tête.
Il en a des poids lourds à la MMA Factory. Est-ce que tu t'inspires de la boxe pour les former avec des gants qui sont de tailles différentes, etc. Quel est ton top 3 et tout ça?
Absolument. Je suis un fan des poids lourds. J'ai l'impression que si je suis un vrai fan des poids lourds j'ai été forcé de pouvoir amener Wilder dans mon top 5 parce que j'aime pas du tout sa boxe, mais pas du tout, je trouve ça, enfin j'ai l'impression que ça salit la boxe, mais maintenant il force le respect. Tu ne peux pas dire autre chose parce que son palmarès est incroyable. Il tue les gens. Maintenant, la question, c'est de savoir où est-ce qu'on pose notre curseur sur ce qu'on appelle le modèle de performance. Où est-ce qu'on tire. Moi, mon modèle de performance, je le vois plus sur ce qui est esthétique, sur ce qui est beau.
T'es avec Ibrahim, t'es sur AJ, Anthony Joshua.
Son classement me va parfaitement.
Mais
celui Ibrahim.
C'est là où je vais vous demander à tous les trois, est-ce que pour vous, il est surcoté ou sous-coté, Deontay ? Parce qu'on parle de cette technique qui, en effet, quand on le voit boxer parfois, on se dit c'est même plus du bordel.
Je suis même incapable de te répondre dessus parce qu'en réalité, ce mec, il ne vole pas son respect. Il est bien coté.
Il est normal. Il est là où il est.
Voilà, il doit
il
être coté comme ça.
Mais
c'est juste qu'il ne me touche pas quand je
bien
parle du noble A, il ne me touche pas.
Mais est-ce qu'on demande autre chose finalement au lourd qu'une patate de foire
Tyson Fury, il a plus que ça. Andy Ruiz, c'est un bon boxeur aussi. AJ, c'est un bon boxeur. On est loin du cliché des poids lourds qui n'ont pas de cardio, qui ont une technique moyenne, mais qui ont juste des mains de pierre. Wilder, c'est un petit peu l'ancienne école. C'est pour ça qu'on a tendance un petit peu à le prendre un petit moment. Mais j'insiste, il touche une fois. Regardez contre Fury. Il est ridicule pendant, pendant 33 minutes, mais il y a 3 minutes
Fury
où il a des
instants. Correction, voilà. Leçon de boxe.
Ibrahim,
par contre, là où Wilder est indispensable dans l'échec actuel, c'est que c'est le seul qui est capable de battre tous les autres boxeurs. C'est le seul qui est capable d'apporter une dimension hors norme au combat. Wilder, c'est pour ça qu'il n'est même pas classable. Pour moi, ça reste quand même le champion intouchable.
Ce qui m'intéresse, Herbie aussi.
Même si techniquement, il est très faible.
On a Fernand qui est un promoteur, mais aussi un entraîneur. Cyril Gane, par exemple, tu vois qu'il est capable de placer des clés alors que c'est un lourd. L'évolution des morphotypes des gens. Avant, les sprinteurs faisaient 1m80, Bolt a tout pété. Les lourds faisaient 1m85, aujourd'hui, ils font 2m. Et tu t'aperçois qu'à 2m, tu peux être aussi technique qu'à 1m70. Donc, c'est gênant quand tu es enseignant de dire Wilder, c'est la référence, puisque tu peux amener la technicité chez les grands et les gros.
Non, ça ne me gêne pas. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est qu'on puisse laisser le champ des possibles gravement ouvert. Ce que je veux dire, c'est que je n'apprends pas une technique à tout le monde. J'apprends système de techniques et je laisse choisir en fonction des morphotypes et même de l'éducation qu'on a eue.
Mais même pas des morphotypes. Entre Cyril et Francis, c'est quand même deux combattants totalement différents, même si c'est deux poids lourds.
Voilà,
ça n'a rien à voir.
Absolument différent. Et moi, j'aime ça qui est le champ des... Maintenant, je vous dis juste qu'on reste humain et dans mes affinités, je ne suis pas très affinitaire à juste la patate. Je suis pas un affinitaire de ça.
Deux chiffres pour juste vous remettre en perspective, justement. C'est la technique de Wilder, on est tous d'accord. Au niveau du noble art pur, elle est faite. Mais est-ce qu'il a pas maîtrisé, en fait, une sorte de bordel organisé? Quand on voit deux chiffres, 48% de ses coups puissants touche les adversaires. Mais c'est le plus haut taux de la catégorie. Et il prend que 7,4 coups en moyenne par round. La moyenne dans la KT, c'est 15. Est-ce qu'il n'a pas maîtrisé une sorte de bordel?
Et là, son allonge aussi pour
exactement.
Lui.
Hein. Il a Est-ce qu'il le sait, allonge, ce que tu il dis a, il a une super allonge.
Et des longues jambes aussi.
C'est pas un boxeur, qui aime prendre les coups. Et c'est vrai que quand vous êtes un puncher... Eh ben, en général, l'adversaire, il vous l'empêchait de travailler. Vous savez, quand vous recevez un coup de massue dans la tête, tu es pour préparer toute la meilleure stratégie du monde. D'un coup, tu es en train d'hésiter.
C'est même pas l'avoir reçu le coup. C'est-à-dire qu'il y a des adversaires de Francis Ngannou qui sont battus d'avance parce que tu sais que le mec a des pistolets. Alors que tu sais qu'il te connecte, tu descends.
Et à partir de là,
tu peux
pas être
le même. Mais maintenant, la réalité, c'est que moi, je parle de sa technique pure. Moi, je ne trouve pas sa technique bonne. Cependant, il est intelligent. Vous voyez son dernier combat. Son bras arrière, il a choisi de le placer à ce moment-là. Et c'est génial. C'est génial parce qu'il s'était calculé son moment. Il a attendu, il était passif.
Wilder, qui s'applique juste avec son direct du bras avant.
C'est ça, c'est ce que j'allais
dire. Il est capable de gagner tous les combats.
C'est ce que j'allais dire.
Juste avec son direct du bras avant.
Il
a le droit de la placer au bon moment.
Et aussi, il y a quelque chose qui est sous-estimé parce que c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Mais je trouve que ses déplacements sont quand même assez intéressants parce qu'il se sert bien de son allonge pour rentrer à l'intérieur. Pour sortir, se désaxer.
C'est juste qu'il s'est pas enchaîné en fait.
C'est ça.
Il s'est boxé sur un ou
sur
deux
coups. Un coup de
quand
coup.
Tu lui demandes d'enchaîner 3, 4 coups, 5 coups, et ben là, techniquement, c'est ça, pas viable. C'est
gardez la pêche, la mais boxe, on descend de plusieurs catégories, c'est la belle histoire. It's gonna be your history. It's gonna be
your family's history. Ori contre Gerfi pour le titre européen des coqs. C'est samedi soir à Saint-Nazaire et sur RMC Sport à suivre la soirée. Donc une semaine après Soro Vitu, c'est un beau symbole et c'est un beau clin d'œil, Brahim. Je pense que tu seras d'accord. Un autre combat franco-français en France pour une ceinture européenne très crédible avec deux boxeurs très crédibles. Un boxeur très intelligent, Ori, qui est un boxeur vraiment pas facile à boxer. Et en face, Gerfi qui a l'expérience, qui a été déjà trois fois champion d'Europe, dont la dernière fois sur notre antenne RMC Sport. C'est un beau petit combat qui s'annonce franco-français, là, Brahim.
Ça va être même un super combat. Je vais faire juste une petite parenthèse avec Vitu et Soro. C'est vrai que je pense que ce combat-là va pousser la nouvelle génération, en tout cas la boxeur actuelle plus la nouvelle génération, à accepter d'avoir des vraies confrontations. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a eu Bercy. On n'aurait pas eu Michel Soro de Vitu, on n'aurait pas pu remplir Bercy. Donc, c'est un vrai détonateur. Maintenant, il faut qu'on suive cet élan. Le combat qui a amené à qu'on va vivre sur nos antennes samedi, Gerfi-Ori, c'est un très gros et beau championnat d'Europe. Qui va gagner? Sincèrement, je n'en ai aucune idée. L'expérience sera en faveur de Gerfi, qui a déjà vraiment un bagage. Techniquement, c'est à la hauteur, ça frappe bien, c'est juste. En face, comme tu l'as dit, c'est un boxeur très intelligent, un boxeur qui est en train de monter, qui est jeune. Donc voilà, on a une vraie rivalité. Et derrière, surtout, ça nous ouvre d'autres perspectives. Peut-être qu'on sera amené à en parler tout à l'heure. Mais là, on a affaire, et ce qui est plaisant, un vrai beau championnat d'Europe franco-français.
C'est ce que tu parlais, Brahim, c'est un peu mon délire. J'en parlais avec Thomas quand on préparait l'émission.
Oh, ça qui rigole dans ta voix.
Qui n'aime pas quand je fais des projections trop loin, mais c'est deux coqs. Ils vont se disputer un titre européen. On a un Français qui est champion du monde des coqs, Nordine Oubali.
Et quel champion.
Qui aura du mal à faire venir ses adversaires en France. Il aura du mal à boxer Inoue en France. S'il veut boxer Inoue, ce sera au Japon ou aux États-Unis, c'est clair. Est-ce qu'il n'y aurait pas un beau combat franco-français à faire, le champion d'Europe contre
T'es
le champion
complètement fou.
On rêverait
mais
d'avoir
je comprends
cette
pas
confrontation.
Ça. Quand on a un premier mondial, on veut qu'il aille s'expatrier
et
faire le championnat du monde.
Au Japon,
mais on le veut aussi, on veut les deux. Le franco-français, ça
creuse. Sa carrière au Japon, elle est ouverte. Aujourd'hui, il sera amené à reboxer au Japon et à boxer dans certains pays. Mais c'est vrai que quand tu es boxeur et que tu as une certaine notoriété et un palmarès comme celui-là, bien évidemment, tu as envie de boxer à la maison.
Moi, j'ai une question.
Et quand tu boxes à la maison, il n'y a pas mieux que de boxer à l'autre boxeur.
Il te reste peu de temps, mais moi, j'allais
français.
Te dire, toi, Gann et Ngannou, on veut que ce soit le plus tard possible à l'UFC. Tu vois ce que je veux dire?
Le plus tard, on n'en parle pas. moi, ma question, c'est pourquoi on ne peut pas faire venir ces Japonais? Pourquoi on ne peut pas faire venir ce monde?
C'est grand. Parce qu'ils ont une telle économie chez eux, ils ont des télévisions qui mettent beaucoup d'argent, ils arrivent à remplir 20 000 ou 40 000 spectateurs. Quand nous, tu vois, on a fait Bercy, on a fait 11 500. C'est beau, mais on n'a pas rempli Bercy, au final, quand tu regardes bien. Ouais. Eux, ils remplissent 40 000 personnes en l'espace de quelques heures.
Tu vois,
eux, ils ont arrivé à créer une vraie économie autour de la boxe. Surtout pour les boxeurs de petite catégorie, pour le Japon, sincèrement, c'est une merveille de boxer là-bas. Quand on est en France,
c'est dommage,
on a du mal.
On n'y était pas loin.
On n'est pas loin, Fernand. Ouais. Tu vois, on voudrait faire 52 minutes, mais on ne fait que 27 minutes. C'est pour ça qu'on se quitte là-dessus. Merci beaucoup, Fernand Lopez.
Salut les gars.
À la semaine prochaine sur le RMC Fighter Club. Bye bye.
RMC Fighters Club.
Envie de parier sur le sport? Avec en moyenne plus de 50 paris possibles par match, des offres qui suivent l'actualité et un bonus de bienvenue irrésistible, Winamax est le site idéal pour débuter. En live, sur tablette ou mobile, vous êtes sûr de profiter des meilleures cotes du marché.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.